Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Droit et citoyenneté aborde aujourd'hui la problématique de la révision ou la réouverture d'un procès en droit congolais. En effet, plusieurs défenseurs des droits de l'homme plaident pour la révision ou la réouverture des procès au terme desquels les décisions judiciaires rendues n'ont pas satisfait toutes les parties prenantes. Certains, comme celui de l'assassinat de l'ancien président de la République, Laurent Désiré Kabila, n'a pas été achevé. Un autre, celui de l'assassinat d'anciens défenseurs des droits de l'homme, Floribert Chebeya et Fidel Bazana, s'est terminé aussi sans que les vrais coupables ne soient inquiétés, selon les avocats des parties civiles au procès. Des plaidoyers sont aussi faits dans le but soit de libérer, soit de réouvrir le procès en faisant comparaître les présumés coupables, selon certains témoignages. D'où ces questions. Qu'est-ce qu'on entend par la révision d'un procès? Quelles sont les conditions d'une telle révision? Que dit la loi à ce sujet? C'est autour de ces questionnements que le magazine de promotion de vos droits et devoirs gravite avec les spécialistes du droit et défenseurs des droits de l'homme. Cette émission est coordonnée et présentée par Jeff Ngoyi Mulonda sous la supervision de Jean-Marc Matoua qui m'a fait l'aile. Bienvenue à tous. La problématique de la révision ou la réouverture d'un procès en droit congolais. Droit et citoyenneté en parlent. Et pour commencer, nous recevons le procureur de la République près le tribunal de paix de Kasavubu et secrétaire général du SINAMAC, syndicat autonome des magistrats du Congo. Eric Koukoukiese sera suivi du président de l'AZADO, Association africaine de défense des droits de l'homme, maître Jean-Claude Katende. Ils nous disent ce que l'on entend par la révision ou la réouverture d'un procès ou d'une condamnation. Coucou Kiesse.
Il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur le plan de la sémantique. La loi ne parle pas de la révision. Bien sûr qu'il s'agit de la révision d'un procès, mais la loi parle de la révision d'une condamnation passée en force des choses jugées. Donc, pour avoir la meilleure lecture de la question, l'on peut se référer à l'ancienne loi, à l'ordonnance loi relative à la procédure devant la Cour suprême de justice. J'aimerais en donner les références. L'ordonnance loi numéro 82-13017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice. En son article 70, ce qui est dit là-bas, section 4, la révision des condamnations passées en force de choses jugées. Donc, à partir de cet élément indiciaire, on comprend que pour le législateur, il s'agit de réviser une décision qui condamne une personne en matière pénale, mais pour laquelle il n'y a plus possibilité de faire un recours tant ordinaire qu'extraordinaire. C'est en fait une action qu'on peut qualifier même de recours plus qu'extraordinaire, parce que là, une personne est condamnée au premier degré, au second degré, même au niveau du pouvoir en cassation. Mais on estime qu'après, il y a encore possibilité de faire la révision ou de demander la révision de la condamnation. Ça, c'est sur le plan sémantique. Cette procédure a été prévue par les dispositions des articles 70 à 75 de la loi que je viens de citer, laquelle loi est aujourd'hui abrogée et remplacée par la loi organique numéro 013-010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Comme la Cour suprême de justice n'existe plus, elle a été démembrée en Cour de cassation, Conseil d'État et Cour constitutionnelle. C'est la loi que je viens de citer présentement qui va servir de la loi de référence en matière de révision, notamment les articles 67 à 72 de cette loi organique.
À présent, on écoute Jean-Claude Katende de l'AZADO.
Ce que nous devons retenir, c'est que la révision, c'est une voie de recours extraordinaire qui permet soit au ministre de la Justice, soit à la partie concernée de pouvoir demander les réexamens d'une décision déjà définitive. Et par rapport à la question que vous posez, il faut dire que cette question de la révision d'un jugement ou d'un arrêt est réglée par l'article 67 de la loi qui définit la procédure devant la Cour de cassation.
Quelles en sont les conditions et la procédure? On revient encore au procureur Eric Koukoukiese.
Qu'est-ce que la loi dit en matière de révision de condamnation passée en force des choses jugées? Au départ, l'article 67 de la nouvelle loi organique organique, la loi numéro 13/010 du 19 février 2013, cette loi dit que la révision des condamnations passées en force de choses jugées, c'est-à-dire une condamnation qui ne peut plus faire l'objet des recours, on peut en faire la demande pour toute infraction dont la peine est condamnable d'au moins 2 mois de servitude pénale principale. Donc pour la peine de 2 mois de prison. Donc à partir d'une infraction dont la peine est au moins de 2 mois de prison ou de servitude pénale principale, c'est ça le terme technique, on peut adresser une demande devant la Cour de cassation pour obtenir la révision de la condamnation qui est passée en force de choses jugées. Mais pour arriver à faire cette demande devant la Cour de cassation, il faut que l'une des conditions prévues par l'article 67 soit réalisée. Il s'agit en tout de 4 conditions, mais il suffit que l'une soit en place pour qu'on soit à même de faire cette demande. Premièrement, tel que le dit le législateur, après une condamnation, un nouvel arrêt ou jugement condamne pour le même fait un autre prévenu et que les 2 condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné. Donc, vous êtes condamné jusqu'au dernier degré, il n'y a plus de possibilité de recours quelconque par rapport à cette condamnation, mais après apparaît un arrêt ou un jugement qui condamne une autre personne pour les mêmes faits qui vous ont condamné, au point que les 2 décisions judiciaires deviennent inconciliables. Il faut retenir l'une et chasser l'autre. Lorsqu'on se retrouve dans cette situation de 2 condamnations pénales inconciliables, la partie intéressée qui estime qu'il a été lésé par une condamnation pour laquelle il estime être innocent peut valablement saisir la Cour de cassation en révision de la condamnation qui le frappe. Ça, c'est pour la première condition.
La problématique de la révision ou la réouverture d'un procès en droit congolais. Droit et citoyenneté en parlent. Que dit la loi à ce sujet? Quelles en sont les conditions et la procédure? Le procureur de la République, Éric Koukoukiese.
La deuxième condition, le législateur dit postérieurement à la condamnation, un des témoins entendus a été poursuivi et condamné pour faux témoignage contre les prévenus. Et la loi ajoute, le témoin ainsi condamné ne peut plus être entendu lors des nouveaux débats. Nous savons tous, et ça c'est pour expliciter la deuxième condition, qu'en matière répressive ou en matière pénale, pendant l'instruction juridictionnelle, donc devant le juge, il peut arriver, même avant, qu'on puisse faire appel à des témoins. Il y a 2 types de témoins. Ici, il s'agit essentiellement du témoin à charge, c'est-à-dire celui qui est venu donner des éléments contre la personne qui est arrêtée. La troisième condition, telle qu'elle est présentée par la loi, ici je cite l'article 67 de la loi précitée, voilà ce que le législateur dit. Après une condamnation pour homicide, il existe des indices suffisants propre à faire croire à l'existence de la prétendue victime de l'homicide. Homicide, c'est-à-dire il s'agit ici de tout cas infractionnel qui entraîne la mort physique de la victime. Alors, lorsqu'après la condamnation du prévenu, il existe des indices qui font croire, il faut qu'il s'agisse des indices suffisants, qui font croire à l'existence de la personne prétendument morte, donc victime d'homicide, il est normal que la prévention retenue à charge du prévenu qui a été condamné devra alors être tombée parce que sans la mort physique de la victime, on ne peut pas parler d'homicide. Dans ce cas aussi, il y a possibilité de faire une demande devant la Cour de cassation et donc d'obtenir la révision de la condamnation pour homicide qui est passée en force de choses jugées. Enfin, la 4e condition qui, entre l'une ou l'autre, peut être prise en compte, c'est qu'après une condamnation, un fait vient à se révéler ou des pièces inconnues lors des débats sont présentées et que ce fait ou ces pièces sont de nature à établir l'innocence du condamné. Je crois que la loi est claire en elle-même, c'est-à-dire après la condamnation, jusqu'au dernier degré, la personne n'arrive pas à prouver son innocence, mais un fait se révèle. Ce fait peut être soit on découvre un témoin à décharge, soit par la police scientifique, on découvre les traces ou les indices qui font que la personne qui a été condamnée n'était même pas sur la scène du crime, ou alors des pièces qui étaient inconnues lors du premier débat, lors du premier procès, apparaissent et font établir nettement l'innocence de la personne condamnée. Donc si l'une de ces conditions se trouve être réalisée, premièrement, 2 jugements ou 2 décisions judiciaires inconciliable alors que la personne qui fait la demande de la révision avait déjà été condamnée et que cette décision est passée en force de se juger, il faudra que l'une tombe et l'autre subsiste, d'où révision possible.
Le procureur de la République est complété par Maître Jean-Claude Katende.
Pour que la révision soit possible, la première condition, c'est qu'il doit d'abord s'agir d'une décision définitive, c'est-à-dire un jugement qui a été déjà coulé en force des choses jugées. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est le fait que le procès ou les jugements concernés doit avoir au moins condamné la personne à une peine supérieure à 2 mois de servitude pénale principale. Et cette décision, c'est la troisième condition, il peut s'agir de n'importe quelle juridiction. Donc, si ces conditions préalables sont réunies, il faut maintenant voir dans quel cas on peut demander la révision d'un jugement ou d'un arrêt. Et là, l'article 67 donne 4 cas pour lesquels on peut demander la révision d'un jugement. Et le premier cas, je vais lire les cas qui sont donnés par l'article 67 de la loi qui définit la procédure devant la Cour de cassation, qui dit ceci: après une condamnation, un nouvel arrêt ou un jugement condamne pour les mêmes faits un autre prévenu et que les deux condamnations ne peuvent se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou l'autre des condamnés. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas dit que postérieurement à la condamnation, un des témoins entendus a été poursuivi et condamné pour faux témoignage contre les prévenus. Et le troisième cas, après une condamnation pour homicide, il existe des indices suffisants propres à faire croire à l'existence de la prétendue victime de l'homicide. C'est par exemple, on a condamné quelqu'un pour avoir tué quelqu'un d'autre, mais on se rend compte plusieurs années après que la personne qui avait été condamnée n'est pas l'auteur de l'assassinat ou du meurtre de la personne pour laquelle il a été condamné. En ce moment-là, la personne qui a été condamnée et qui serait en prison en liberté peut demander la révision du jugement ou de l'arrêt. Et le dernier cas, c'est après une condamnation, un fait vient à se révéler où des pièces inconnues lors des débats sont présentées et que ce fait ou ces pièces sont de nature à établir l'innocence du condamné. Ça veut dire tout simplement qu'il arrive des cas où on a condamné une personne, mais il y a des pièces qui viennent à être connues, qui n'étaient pas en fait versées au dossier en ce moment-là. Et ces pièces sont déterminantes pour démontrer que la personne qui a été condamnée est innocente. En ce moment-là, ça peut être les pièces, ça peut être un témoin clé qui réapparaît alors qu'on avait supposé, par exemple, qu'il était déjà décédé et la personne est condamnée. Quand ce témoin réapparaît, la personne qui a été condamnée peut être en droit de introduire une requête auprès, n'est-ce pas, de la Cour de cassation pour demander la révision du jugement ou de l'arrêt. Et c'est dans ces 4 cas-là où la révision peut être possible.
Est-ce qu'il y a un délai judiciaire pour procéder à cette révision?
Non, je ne pense pas qu'il y ait de délai. La loi ne fixe pas de délai en ce qui concerne la révision, mais seulement je vous ai indiqué quels sont les préalables. Les personnes qui sont concernées par la décision sont en droit d'introduire une requête pour obtenir la révision du jugement ou de l'arrêt. En même temps aussi, la loi permet au ministre de la Justice, pour le besoin, je crois que de la protection des personnes, des droits et libertés, le ministre de la Justice peut, quand il est en possession des pièces nouvelles ou des faits nouveaux, pouvoir aussi introduire une requête devant la Cour de cassation. Maintenant, en ce qui concerne les cas de Floribert Chebeya, je pense que ce cas mérite franchement une révision. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un témoin oculaire, un témoin clé, en la personne de M. Mouilamboué, qui est au Sénégal et qui s'est soumis aux juridictions sénégalaises pour qu'on puisse connaître de cette affaire et qu'il ait la possibilité de dire la vérité qu'il connaît. Ce témoin clé n'avait pas comparu au procès qui a conduit à la condamnation de ceux qui sont en prison. Et selon les informations en notre possession...
Mais il avait été condamné par défaut.
Il a été condamné par défaut, mais lui... En fait, il ne peut même pas être considéré comme prévenu dans la mesure où il n'a même pas participé à l'exécution du crime. Son problème, c'est d'avoir été témoin. Et là, les juges ont eu trop de pression parce qu'il fallait qu'on trouve une personne, un bouc émissaire sur lequel on devait mettre tout ce qui s'est passé, l'assassinat de Floribert et de Fidel Bazana. Et un des boucs émissaires, c'est monsieur le colonel Moukalaï, qui est aujourd'hui en prison. Mais il est presque seul en prison. Or, pour assassiner deux personnes dans les bureaux de l'État, il est impossible qu'une seule personne soit capable de commettre un tel forfait sans l'aide de qui que ce soit.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs, Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine « Droits et citoyenneté ». Mieux connaître vos droits pour bien les défendre. Mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30. Tous les jeudis à 13h30.
Droit et citoyenneté se poursuit. Nous parlons de la problématique de la révision ou de la réouverture d'un procès en droit congolais. C'est sur ces entrefaites que l'avocat d'un des condamnés dans le procès de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana, le colonel Daniel Mukalai, qui vient de franchir le cap de 9 ans d'emprisonnement à Makala, plaide pour la libération de son client, Maître Bokata Ikundaka.
Je commencerai par dire que vous avez dit qu'il y a beaucoup d'activistes des droits de l'homme et au plus haut niveau des droits de l'homme qui plaident en faveur d'une libération de mon client. Il plaide également en faveur d'une révision. Pourquoi j'ai évité et je souhaite ne pas parler de la révision en droit congolais? Parce que s'il apparaissait que mon client doit attendre une révision de procès qui peut être hypothétique, qui doit être organisée, qui peut prendre beaucoup de temps et dont les contours sont tout à fait incertains, je préfère en ce qui le concerne, vu qu'il vient de passer mardi 4 juin 9 ans de privation de liberté. D'abord dans des conditions extrêmement difficiles dans les deux endroits où il avait été détenu, et puis dans des conditions humaines un peu plus acceptables au niveau du CPRK, mais ce sont toujours des privations de liberté. Alors, il y a deux options. Soit, tel que la loi l'organise, une libération conditionnelle ayant subi plus d'un quart de sa peine. Donc, il y a plus de 5 ans qu'il aurait pu bénéficier de cette liberté. Soit, une amnistie présidentielle. Alors, pour aller dans le même sens que les activistes des droits de l'homme, les contours ultimes de ce dossier sont-ils uniquement judiciaires ou bien politique? Le contour ultime peut être politique, mais on organise un débat judiciaire. Lorsqu'il y a eu libération de prisonniers politiques, est-ce qu'il ne fallait pas considérer, de par la nature de ce dossier, de par la personnalité de Chebeya, qui était pour moi, je l'ai dit en cours de procès, un Sherpa de la démocratie. Et qui dit Sherpa de la démocratie, ce n'est pas ravaler le défunt Chebeya au simple rang de petit activiste. Un Sherpa de la démocratie, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait gravir des échelons à la démocratie ici. Lorsque quelqu'un agit comme cela dans la sphère politique au sens noble, pas au sens politicien, ça veut dire que son décès relève en ultime de cet aspect-là. Donc, il pouvait alors à ce moment-là bénéficier de la grâce présidentielle. Et il peut toujours aujourd'hui bénéficier de la grâce présidentielle. Qu'est-ce qui apporte du grain à moudre à ce positionnement? Mais le fait que les activistes des droits de l'homme, dont Lazado, qui était parti prenante au procès de Chebeya, aujourd'hui, avec toute une série d'éléments neufs, considère qu'il faut procéder à la libération du colonel Mukalai. Non seulement il y a les éléments que nous avons mis en exergue lors du procès, mais il y a toute une série d'éléments neufs qui ont été mis à la disposition des droits de l'homme et qui militent et qui plaident en cette faveur-là. Il ne faut pas oublier que c'est un patchwork, ou bien si vous préférez, un espèce de millefeuille. Un procès, ce n'est pas un élément isolé. Il y a les éléments que nous avions analysés à l'époque qui auraient dû militer en faveur de la relaxe pure et simple.
Dans l'hypothèse où Daniel Mukalai est libéré, qui serait alors le vrai coupable dans cette affaire?
Mais il appartient, à mon sens, à la justice de faire la lumière, mais la vraie lumière.
Est-ce que la lumière n'a pas été déjà élucidée? La lumière n'a pas été déjà faite quand le procès a été organisé en dernier ressort devant la haute cour militaire?
Il y a deux aspects. Le premier, par rapport, de manière égoïste, par rapport à mon client, c'est qu'il est innocenté. Et là, je crois que la justice aura véritablement fait œuvre de justice en l'innocentant. Maintenant, la vérité sur les contours de la survenance du décès de Floribert Chebeya reste à faire. Mais, et je le relis, il y avait peut-être un défaut originel au procès de Chebeya tel qu'il a été organisé en 2010. Fallait-il se demander dès le départ qui a tué Chebeya ou poser la vraie question dans quelles conditions est survenu le décès de Floribert Chebeya? Il fallait élargir. Lorsque la justice se pose uniquement une seule question relative à un décès survenu dans ces conditions-là, donc homicide volontaire ou bien assassinat, elle s'est réduite elle-même. Elle aurait dû élargir, voir les circonstances qui ont présidé à la survenance du décès de Floribert Chebeya.
Donc la justice n'aura pas fait œuvre utile en condamnant Daniel Mukalai. C'est injuste.
Pour moi, c'est évident. Première preuve de cela. Comment voulez-vous qu'au premier premier degré, on passe. Au deuxième degré, on passe de la peine capitale à une condamnation de privation de liberté à 15 ans. Tout juriste un peu sensé se pose la question. De deux, le positionnement des activistes des droits de l'homme aujourd'hui répond en partie à votre question.
9 ans après l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, respectivement ancien directeur exécutif de la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme et son chauffeur, l'ombre du général John Numbi réapparaît dans les collimateurs des défenseurs des droits de l'homme. À l'occasion de la commémoration de ce double assassinat intervenu le 1er juin 2010, les organisations de la société civile et avocats des partis civils Chebeya et Bazana ont organisé une conférence débat. Elles ont plaidé pour la réouverture du procès des deux défunts afin de faire juger les vrais coupables. Elles ont ainsi sollicité l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Maître Jean-Marie Kabengela en donne quelques pistes.
Voici quelques pistes que je puis proposer pour que ce procès reprenne dans un cadre du procès équitable. Parce que ce qui s'était passé, ce n'était pas un procès équitable. Première piste, considérant que par son arrêt avant dire droit, la haute cour militaire, invoquant à tort l'article 94 du code procédure pénale, avait ordonné la suspension des poursuites à l'égard de prévenus fugitifs. Or, qui dit suspension des poursuites ne veut pas dire abandon de celle-ci. Il est donc indiqué aujourd'hui que ce procès reprenne et en vertu de l'effet devolutif de l'appel, tous les prévenus, témoins et renseignants devraient comparaître devant la haute cour militaire. En appliquant bien entendu la disposition de l'article 324 pour atteindre les prévenus qui sont en fuite. Et pour mettre cette procédure en état, il est indiqué que la haute cour militaire, par son greffe, utilise les alinéas 2, 3, 4 de l'article 324 et ainsi que l'article 325 du code judiciaire militaire. C'est la première piste pour voir répandre le procès Chebeya. Deuxième piste, en considérant la volonté affichée par Paul Mouilamboué d'être extradé vers la République démocratique du Congo pour y être jugé, une possibilité s'offre de revenir devant le premier juge. En effet, n'étant pas jugé par la haute cour militaire, statuant en appel et à la suite de l'arrêt avant du droit par lequel elle avait ordonné la suspension des poursuites, notamment à son égard, Paul Mouilamboué peut se faire notifier l'arrêt rendu par défaut à son égard par la cour militaire de Kinshasa-Gombe et dans les 5 jours qui suivront la dite notification, il pourrait faire opposition. S'il faisait l'opposition à l'arrêt qu'il est condamné par défaut, Paul Mouilamboué bénéficierait de la possibilité des garanties offertes par l'article 94 du code de procédure pénale, celle de ne pas voir s'exécuter l'arrêt le condamnant par défaut, et ce jusqu'à l'arrêt sur opposition. L'opposition qui serait ainsi faite par Paul Mouilamboué donnerait la possibilité de rouvrir le procès de l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Ainsi, par l'effet de cette opposition, tout le procès sera remis à zéro et toutes les parties seront réjugées ab initio. Troisième piste, obtenir l'injonction du ministre de la Justice à l'adresse de l'auditeur général de FRDC afin que ce dernier refasse la décision de renvoi à charge de John Numbi en remplacement de celle qui a été soustraite. Cet état de la procédure aurait le mérite de saisir la haute cour militaire siégeant au premier et dernier ressort.
Maître Jean-Claude Katende de Lazado revient à la charge pour réclamer la fin de l'impunité en sollicitant l'implication personnelle du président de la République.
On a aussi mentionné notamment la comparution de M. John Numbi. Comme vous le savez tous, il a été protégé par le régime qui est passé et cette fois-ci nous voulons que le président de la République prenne des décisions courageuses par rapport à cette affaire. C'est notamment de pouvoir les révoquer et de le mettre à la disposition de la justice congolaise. Parce que selon les informations à notre possession, certains exécutants de ce crime, dont M. Christian, ils sont dans certaines villes de la République démocratique du Congo où ils continuent à travailler pour la police nationale congolaise sans être du tout inquiétés.
Quelle est la conséquence de la réouverture d'un tel procès? Que ferait-on de la réparation des dommages et intérêts des parties civiles? Le président de l'ASADO, Jean-Claude Katende, explique.
D'abord, la conséquence en ce qui concerne les parties civiles qui avaient obtenu, par exemple, des dommages intérêts, dès que la Cour de cassation décide que l'affaire doit être renvoyée devant une autre juridiction de même ordre ou du même niveau que celle qui avait prononcé l'arrêt ou les jugements, les parties civiles seront contraintes d'aller comparaître devant cette nouvelle juridiction. Mais s'il arrive que la personne qui avait été condamné est acquitté, ça veut dire en d'autres termes que si les parties civiles avaient obtenu des dommages intérêts, ces dommages intérêts vont être tout simplement annulés. Et si les dommages intérêts étaient déjà perçus, elles vont être mises dans le devoir de pouvoir restituer les dommages intérêts, surtout si ceux-ci viennent de la personne qui a été précédemment condamnée et qui vient à être libérée. Maintenant, si la personne qui avait été condamnée, là, c'est du côté du condamné lui-même. S'il a été acquitté, il a en droit d'introduire une requête, une demande en réparation de dommages qu'il a subis du fait d'avoir été, par exemple, radié de l'armée, du fait d'avoir été gardé en prison alors que c'était une personne innocente. La loi prévoit toutes ces possibilités parce qu'on ne peut pas demander, par exemple, à une personne qui est acquittée de payer les dommages et intérêts. Les réparations ne sont dues que quand la responsabilité pénale est établie dans les chefs de quelqu'un. Et si ce quelqu'un est acquitté, il n'y a plus droit à des dommages et intérêts. Et si les parties civiles les avaient déjà obtenus, elles seront mises dans une situation où elles seront obligées de les restituer.
D'autres procès font cas de figure, notamment le procès d'assassinat de feu le président de la République, Laurent Désiré Kabila, dont Jean-Claude Katende réclame la réouverture ou la libération des condamnés qu'il considère innocents.
Il faut retenir que lors du prononcé de l'arrêt par la Cour d'ordre militaire, il avait été dit que les enquêtes ne sont pas achevées. C'est pour ça que je dis que c'est un procès particulier, parce qu'on ne peut pas comprendre un seul instant que le ministère public envoie les dossiers en fixation alors que les enquêtes ne sont pas bouclées. Et lors du prononcé, le président de la juridiction avait dit que les enquêtes allaient continuer. Si ces enquêtes avaient effectivement continué et qu'on aurait découvert, par exemple, qu'il y a d'autres pièces, d'autres preuves qui démontrent que les personnes qui sont aujourd'hui en prison sont innocentes, la conséquence est que ces personnes peuvent introduire une requête devant la Cour de cassation qui va regarder sur base de ces nouvelles pièces si elle est innocente les personnes qui sont en prison ou pas. Si elle est innocente les personnes qui sont en prison en ce moment-là, là, la Cour de cassation, ce qu'elle va faire, c'est de renvoyer cette affaire devant une autre juridiction. Une requête avait été introduite devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui avait statué en démontrant que le procès qui avait conduit à la condamnation de M. Di Capin et de ses compagnons n'était pas juste, n'était pas équitable et que la République démocratique du Congo était en devoir de pouvoir libérer les prisonniers. En plus, il faut souligner le fait que Eddy Capend et ses compagnons avaient bénéficié de la loi d'amnistie de 2005.
On revient encore au procureur Eric Koukou-Kiesse pour évoquer quelques exemples des procès de révision, à savoir le procès de feu le prophète Simon Kimbangu à la haute cour militaire, celui d'anciens députés Adolphe Onusumba et Frank Diongo à l'ex-cour suprême de justice.
Le droit de demander la révision est réservé même pour laver la mémoire d'un mort. Il appartient, premièrement, au ministre de la justice. Mais il y a un point 2, au condamné, s'il est vivant, ou en cas d'incapacité à son représentant. Le législateur va loin après la mort. C'est pour je dis, c'est plus qu'extraordinaire. L'absence déclarée du condamné à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses ayants droit et à ses légataires universels. Vous comprenez que ceux qui dirigent aujourd'hui l'église kimbanguiste, ça c'est vraiment un cas typique de la révision d'une condamnation passée en force de chose jugée, d'un mort. Donc le prophète Simon Kimbangu avait été condamné injustement pour des faits que lui, il était innocent. Mais comme à l'époque de la colonie, il avait été condamné par une juridiction d'ordre militaire, c'est pourquoi ça demande la révision de la condamnation passée en force de chose jugée. Pour pour laver la mémoire du prophète avait été formulé devant la haute cour, militaire. Voilà un cas de figure dont l'excellence dans la décision de la haute cour militaire fait cas de la procédure de la révision d'une condamnation passée en force de choses. Je sais qu'il est différent par rapport aux deux cas que vous avez soumis qui concernent un procès intenté contre la justice auquel la justice devra faire face.
Il y a Franck Diongo après sa condamnation, mais il a été débouté.
Oui, conformément à l'article 70, comme je l'ai dit. Donc, vous pouvez intenter une action en révision, mais il faudra démontrer. Lorsqu'on prend le cas, par exemple, de l'honorable Onusumba, je pense que si j'ai bien suivi les faits, le problème s'est posé au niveau de la victime, qui n'aurait pas été mineure à l'époque des faits, et que la démonstration de sa majorité devrait entraîner la révision de la condamnation. C'est-à-dire, il a été condamné en réalité pour des faits qui, à sa charge, n'étaient pas infractionnels. Ce qui tend à un procès manifestement injuste.
Voilà. C'est sur cette note que nous allons conclure cette émission qui parle de la problématique de la révision d'un procès en droit congolais. Si nous vous avons bien compris, c'est une révision qui concerne une condamnation de la chose coulée en force jugée. Et elle suit toute une procédure. Il y a des conditions qu'il faut remplir pour arriver à cette révision. Et c'est fait soit par un des condamnés, à défaut par son représentant, surtout pour des personnes qui sont déjà mortes. Et la responsabilité en matière des conséquences qui en découlent revient à l'État.
Tout à fait.
Ainsi s'achève Droit et citoyenneté d'aujourd'hui qui s'est penché sur la problématique de la révision ou de la réouverture d'un procès en droit congolais. Merci de nous avoir suivis et de rester toujours branchés sur la fréquence de la paix.